RFI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación en el evento.
Anne-Cécile Bras.
Mi nombre es Diana Mejía.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent, au programme l'évolution des migrations dans les zones rurales en Afrique subsaharienne. Passé au peigne fin des chercheurs du CIRAD, le Centre international de recherche pour le développement. On apprend par exemple que 70% des migrations ont lieu au sein même du continent et que contrairement aux idées reçues, elles ne vont pas uniquement dans le sens des campagnes vers les villes. Cela implique qu'avec le boom démographique, il va falloir investir dans l'agriculture. Nous vous proposerons aussi un sursaut de réalisme. La civilisation occidentale est en train de s'effondrer. Pas la peine de fermer les yeux et de mettre vos mains sur vos oreilles. Les collapsologues, les chercheurs de la science de l'effondrement vous le démontreront dans quelques instants, comme chaque mois, dans C'est pas du vent. Mais tout de suite, direction la Colombie. L'histoire du conflit armé en Colombie est une histoire profondément rurale, agricole et environnementale. Ce petit pays d'Amérique du Sud, traversé par l'Équateur, a une caractéristique. Il est l'un des pays au monde où la terre est la plus concentrée entre les mains de quelques-uns. Cette concentration a chassé des paysans de leurs terres, entraînant des déplacements forcés, de la pauvreté et de la violence. C'est pour stopper cette spirale que les mouvements paysans ont obtenu, au début des années 90, la création de réserves paysannes. Leur but, que chacun puisse avoir une terre où travailler. 6 municipalités de Colombie ont obtenu ce statut et des dizaines de demandes étaient en cours lorsque le gouvernement d'ultra-droite d'Alvaro Uribe est arrivé au pouvoir en 2002. Mais ces zones de réserves paysannes ont été stigmatisées, attaquées, accusées d'appartenir à la guérilla des FARC. 16 ans plus tard, elles sont mentionnées au premier point de l'accord de paix signé avec les FARC en novembre 2016 et elles pourraient peut-être devenir une référence pour la paix. Amélie Perrault s'est rendue dans l'une de ces réserves paysannes, à Cabrera, dans la région du Sumapaz, pour comprendre leur fonctionnement et pourquoi ce sont des terreaux de paix pour un pays qui se reconstruit.
Bonjour Raphaël, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raphaël, vous êtes un paysan ici de Cabrera, vous faites partie aussi du comité d'impulsion de la zone de réserve paysanne ici. Et nous sommes sur la place principale de Cabrera. On est ici entouré par les montagnes. Combien de personnes habitent ici à Cabrera ?
Je crois qu'on est autour de 5300. C'est un territoire rural. Ici, on est des paysans. Les grandes exploitations n'existent pas.
Raphaël, Cabrera, c'est un lieu très important dans l'histoire des luttes agraires, des luttes paysannes en Colombie. Juste derrière nous, on a une statue de Juan de la Cruz, qui est un personnage très important. Pourquoi est-ce que Cabrera est un lieu si fondamental dans l'histoire des luttes agraires en Colombie ?
Vous parlez des luttes agraires en Colombie et ne pas prendre en compte ce qui s'est passé ici, dans la région du Sumapaz et du Tolima, ce serait un peu lire un livre en sautant l'introduction. Juan de la Cruz Varela, c'est quelqu'un qui s'est battu contre les grands propriétaires terriens, qui réduisaient quasiment les paysans en esclavage. Quand Juan de la Cruz est arrivé ici, il y avait déjà des noyaux de mouvements paysans. Mais lui a réussi à les unifier. Il a défendu le fait que chacun ait sa terre à travailler. Il disait que la terre appartenait à celui qui l'avait travaillée, et non pas au grand propriétaire à qui l'État avait soi-disant donné un titre de propriété, qui défendait sa terre avec la force publique et en assassinant les paysans. Et puis, toujours aujourd'hui, un des plus grands problèmes sociaux ici en Colombie, c'est que les gens n'aient pas de terre où travailler. Les grandes terres fertiles sont détenues par un tout petit nombre de personnes. Les paysans n'ont que 18% des terres. Et le reste est aux mains de gens qui ne sont pas des paysans. Ce sont des hommes politiques, des narcotrafiquants. Donc aujourd'hui, le problème continue. Et c'est pour ça que le premier point de l'accord de paix parle de réforme agraire intégrale.
Et c'est pour répondre à ce problème des paysans sans terre dont s'est nourri le conflit armé que la Colombie crée en 1994 la figure de la zone de réserve paysanne. Ici, la loi interdit la concentration de la terre. Personne ne peut posséder plus qu'une unité agricole familiale. Et puis, les organisations paysannes ont davantage d'autonomie pour penser le développement de leur territoire. Cabrera a demandé à être une zone de réserve paysanne et elle l'est devenue en 2000. Les organisations paysannes sont ici très fortes et des dizaines de comités, d'associations travaillent à fortifier l'économie paysanne et à protéger l'environnement. Aujourd'hui, le renforcement de ces zones fait partie du premier point de l'accord de paix signé entre le gouvernement et les FARC. Premier point qui porte sur la réforme agraire intégrale. Protéger l'environnement pour parvenir à la paix, c'est là l'enjeu des zones de réserve paysanne.
Ce territoire de la zone de réserve paysanne protège le paysan. Mais le paysan n'existe pas seul. Il a besoin de sa famille, de ses voisins, des associations citoyennes. Il a besoin des ressources naturelles, de l'eau, de la terre, des arbres, d'un écosystème qui soit durable. Ça, c'est un système agraire intégral. Le paysan a besoin de tout ça. C'est pour ça que les zones de réserve paysanne se sont transformées en mode d'organisation, non seulement économique, mais également sociale et politique. Je crois qu'elles sont aussi aujourd'hui en Colombie la proposition la plus intéressante en matière d'environnement. Parce que c'est la seule figure en Colombie qui donne la gestion de l'environnement aux habitants d'un territoire. Ça, c'est la philosophie et le principe des zones de réserve paysanne.
On m'a dit que pour comprendre l'histoire de Cabrera, l'importance des luttes agraires ici, c'était important que je parle avec les grands-pères et les grands-mères de Cabrera. Et je suis dans un café et je viens de rencontrer Narciso qui commençait à me raconter ses souvenirs. Bonjour Narciso, buenos días.
Buenos días, José, ¿cómo está? Bienvenida a Cabrera.
Muchas gracias. Narciso, vous êtes né ici, en Cabrera?
Nacido aquí en Cabrera, el 9 marzo de
1941. Oui, je suis né ici le 9 mars 1941. Je me souviens qu'en 1953, au moment de la première guerre civile en Colombie, par ici, dans les rues, la police maltraitait les paysans du Sumapaz, jusqu'à ce que des combattants courageux arrivent à Cabrera. Dans les années 60-70, c'était très dur aussi. Mais il a fini par y avoir un accord et ça s'est arrangé peu à peu. Grâce à ça, on est tranquille aujourd'hui.
Narciso, je suis ici pour essayer de comprendre la zone de réserve paysanne de Cabrera. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez les organisations de la zone de réserve paysanne? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, la zone de réserve paysanne, c'est très important parce qu'il faut prendre soin de la nature et ne pas laisser des multinationales s'emparer de nos ressources, de notre rivière surtout, le Rio Sumapaz.
La guérilla
faisait très attention à ça quand elle avait son autonomie. Je me souviens d'un jour où j'étais en train de travailler. Ils sont venus et ils m'ont dit que c'était un délit de couper des arbres trop près de la rivière. J'ai dit que oui, que c'était vrai. Et je me souviens bien que c'est la guérilla qui m'a dit de faire attention à ça. C'était un commandant qui s'appelait Ruby. Le Rio Sumapaz fait partie de nous. Il faut qu'on en prenne soin. Et c'est pas seulement pour moi ou pour Cabrera, c'est pour tout le monde.
Et Narciso, vous parlez du rôle qu'a eu la guérilla pour protéger certaines zones écologiques. Et maintenant que la guérilla n'est plus là, qu'est-ce qui peut se passer?
Il nous manque. Il nous manque parce que la guérilla, elle empêchait qu'il y ait des voleurs et des choses comme ça. Bien sûr que aussi parfois ils demandaient de l'argent aux gens, mais à moi ils ne m'ont jamais rien demandé. Juste une fois, là-bas, 5 guerrilleros m'avaient demandé de leur donner à manger. J'ai dit que j'avais de la soupe et puis voilà. Mais ils m'ont juste demandé quelque chose à manger, c'est tout.
En parlant avec Narciso, c'est une question très importante qu'il soulève, celle de la présence ici des FARC. Cabrera était encore récemment occupée par la guérilla, et longtemps, la zone de réserve paysanne a souffert d'y être assimilée. Quand le gouvernement d'ultra-droite d'Alvaro Uribe est arrivé au pouvoir en Colombie en 2002, les 6 zones de réserve paysanne déjà reconnues par la loi ont été stigmatisées. Pour les endroits qui voulaient le devenir, le processus s'est arrêté. Des leaders paysans ont été menacés, emprisonnés, assassinés. La zone de réserve paysanne était tout simplement vue comme appartenant à la guérilla. Et Raphaël, lui, a une réponse à nous donner sur ces liens entre les deux.
Pour moi, la réponse, c'est que si les zones de réserve paysanne appartiennent à la guérilla, aujourd'hui, avec la disparition des FARC, ces zones devraient disparaître aussi. Mais si on reste présent, ce sera une façon de montrer à nos opposants que non, la zone de réserve paysanne n'appartient pas aux FARC. Elle appartient à une communauté, elle appartient aux paysans et aux habitants de ce territoire.
Est-ce que depuis les accords de paix, il y a des choses qui ont changé ici à Cabrera ?
De grands changements, comme c'est le cas dans d'autres territoires. Parce qu'ici, les institutions ont toujours été présentes. À Cabrera, il n'y a pas de culture illégale, pas d'exploitation minière. Dans d'autres zones de réserve paysanne, c'est différent. Il y a des régions où les FARC avaient une autorité totale. Ils contrôlaient l'environnement. Ils disaient que les choses devaient être comme ci ou comme ça. Qu'ici, on pouvait abattre des arbres. Ici, récolter telle quantité de coca. Donc pour ces communautés si éloignées, la paix, ça a été comme se retrouver orphelin. Ça a été ça, la paix, pour beaucoup de territoires.
Aujourd'hui, le gouvernement colombien parle de réactivation des zones de réserve paysanne. C'est comme ça que les gens l'ont vécu ici ?
Oui. Quand le président Santos est arrivé, il a voulu ouvrir des discussions de paix.
Et
le problème des révoltes armées en Colombie, au départ, c'est simplement un problème de paysans qui n'ont pas de terre à travailler. Et tout le but de la zone de réserve paysanne, c'est d'appuyer les paysans pour qu'ils puissent travailler. Donc, intelligemment, le président Santos a réactivé l'idée de la zone de réserve paysanne. Bon, c'était un peu plus des intentions que des actions. Mais ça a quand même été important. On a pu élaborer un nouveau plan de développement durable, de nouveaux projets. Aujourd'hui, la figure de la zone de réserve paysanne n'est plus aussi diabolisée qu'avant. Ce n'est plus vu comme un truc géré par quatre communistes qui s'opposent à tout le monde. Il y a quand même plus d'efforts pour savoir réellement ce que c'est.
Pourquoi est-ce que les zones de réserve paysanne sont aujourd'hui un sujet important pour la paix en Colombie ?
Parce que je crois que les zones de réserve paysanne sont les territoires les mieux préparés à recevoir la paix. C'est ici qu'existent des organisations capables de gérer des projets. Ici, on a déjà un plan de développement durable, des habitudes de gestion. Et puis, on peut presque dire que c'est dans ces zones que les gens ont le plus souffert de la guerre. Et celui qui a le plus souffert de la guerre, c'est celui qui désire le plus la paix.
Quien más sufre es quien más quiere.
Bonjour, comment ça va ?
Comment ça va ? Vous êtes en train de cuisiner ? Está cocinando ?
Sí, señora.
Oui, madame. Je suis en train de préparer du riz avec des carottes et des pommes de terre sautées et puis des épinards avec du maïs.
Sí, señora.
On vient d'arriver chez Carmenza, à 20 minutes de moto du village de Cabrera, pour comprendre plus précisément les projets de la zone de réserve paysanne. Ici, c'est un des tout premiers, un projet financé avec l'aide de la Banque mondiale qui a appuyé la zone à sa création. C'est une association de femmes, elle s'appelle Organic Campo, et on va donc découvrir ce projet avec Carmenza.
Alors, qu'est-ce que tu veux voir ? Par là, on a des poules. Là, on fait pousser des fruits de la passion. On est 8 femmes et on travaille en agroécologie. Mais chacune a son petit terrain autour de sa finca, de sa maison. Ce n'est pas des terrains immenses, mais chacune a sa petite finca.
Là, on a les cochons. 1, 2 et 3. Je vous ai pas apporté le déjeuner, vous fatiguez pas.
Et c'est quoi l'objectif de cette association de femmes ?
Quand on a commencé, on voulait améliorer la qualité de vie de nos enfants, mais aussi la nôtre en tant que femmes. On se sentait un peu enfermée dans le fait de devoir s'occuper des enfants, de la maison, et puis on voulait cultiver des aliments sains, sans produits chimiques. Et ça a marché, donc on s'est mis à semer de plus en plus de choses. Maintenant, on a 30-35 produits différents, quelque chose comme ça. Là, c'est des blettes. Là, on a des carottes. Ça, c'est des avocatiers.
Donc, tout est cultivé ici de façon agroécologique.
Exactement, sí, señor.
Ici, à Cabrera, on est sur la zone de réserve paysanne. Est-ce que c'est quelque chose qui a une importance dans le projet aussi ?
Claro, sí, señora.
Oui, bien sûr que oui. Je pense que la zone de réserve paysanne, c'est ce qui nous a le plus aidé quand on a commencé. Le fait d'être une zone de réserve paysanne et qu'elle soutienne l'emploi des femmes, ça nous a permis d'avoir des subventions et d'avoir accès à plein d'ateliers, de formations. On a appris à s'occuper de la terre et tout ça. Ça nous a permis aussi de retrouver notre estime de nous-mêmes. Et puis, pour nous, à Cabrera, je crois que la zone de réserve paysanne, c'est cette figure qui aide le paysan à lutter pour la terre, à lutter pour tout ce qui nous entoure, pour nos ressources naturelles, pour qu'on les travaille, mais aussi pour qu'on en prenne soin.
Alors on y va ?
Vamos ?
Nous sommes de retour à Cabrera pour parler d'un moment qui a été très important pour la zone de réserve paysanne. C'était en février 2017 et 97% du village s'est prononcé contre un projet hydroélectrique. On va en parler avec Paola du comité d'impulsion de la zone de réserve paysanne. On a traversé un pont qui passe au-dessus du rio Sumapaz qu'on a derrière nous. Paola, il y a eu, il y a quelques temps ici, une consultation populaire, une consulta popular contre un projet hydroélectrique. Qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, c'est une grande entreprise multinationale qui s'appelle Egmesa, qui voulait implanter un projet hydroélectrique sur le rio Sumapaz. Donc, on a fait appel à ce mécanisme légal qui existe dans la constitution colombienne et grâce à ça, on a réussi ensemble à défendre nos ressources, notre fleuve et notre territoire.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment, si la première chose qui définit la zone de réserve paysanne, c'est la répartition de la terre, comment c'est possible qu'un projet comme ce projet hydroélectrique ait pu même rien qu'exister à Cabrera.
Digamos que ahí es donde uno dice las cosas ilógicas que pueden ocurrir en.
Justement, c'est là que vous pouvez vous rendre compte des choses illogiques qui peuvent exister ici en Colombie.
Las ordenamiento como son las zonas de reserva campesina.
Ça n'a pas de sens qu'ici, alors qu'existe une figure d'organisation comme la zone de réserve paysanne, il y ait des entreprises à qui l'État facilite ce genre de choses.
Intereses particulares. El gobierno mismo se
contradice. Qu'elles puissent accumuler des terres pour des intérêts particuliers. Le gouvernement se contredit et comme toujours, les paysans sont la population que le gouvernement prend le moins en compte.
Paola, on a marché à l'extérieur de Cabrera et on est arrivé près d'une laiterie qui est un autre projet de la zone de réserve paysanne. On peut peut-être aller voir.
Oui, bien sûr. Je suis contente de vous montrer ce projet qui est né comme une réponse au fait que l'État ait décidé de nouvelles normes pour les produits laitiers. Et ces normes sont presque impossibles à atteindre seules pour un petit producteur. Alors on s'est demandé comment faire. Et au moment de la réactivation de la zone de réserve paysanne est né ce projet collectif d'usine de transformation de produits laitiers. C'est une façon de montrer qu'en unissant nos forces, on peut faire de grandes choses.
On va voir la laiterie alors ?
Vamos. Buenas. Buenas. ¿Qué más?
Yo la escuchaba como en el cuarto. ¿Cómo está, señora Paola?
Bien, sí, señora. ¿Cómo me les va? Aquí, como ves, es el sitio en donde se está procesando y se saca el queso.
Là, comme vous voyez, c'est l'endroit où on transforme le fromage de Cabrera. Ce qu'on voit là, c'est l'étape où on laisse le lait cailler. Et puis après, le fromage sèche ici.
À quoi est-ce qu'il ressemble, le fromage de Cabrera ?
Queso fresco de Cabrera.
C'est le fromage frais de Cabrera. On mange avec du chocolat, avec des bocadillos. De plein de façons. Ça peut être du fromage râpé sur les pizzas ou avec des galettes de maïs. En fait, ici, le fromage, c'est une des premières choses qu'on met sur la table.
Il y a beaucoup d'équipements ici qui sont vides autour de nous.
Oui,
pour l'instant, on ne travaille pas encore avec tout le potentiel de la laiterie. On a plusieurs équipements qui ne marchent pas, la chambre froide ici et le congélateur. En fait, c'est parce qu'on a un système électrique trop faible et qu'on n'est pas relié au gaz.
Mais là, autour de nous, on a plein d'équipements extrêmement modernes, tout neuf, mais donc concrètement, il n'y a pas l'électricité aujourd'hui.
Il y a l'électricité, mais c'est très faible. Il nous faudrait au moins 110 volts. Et là, on a 80-90. Pour l'instant, ça n'a pas pu être installé, parce qu'il manque un peu de volonté politique de la part de la mairie. Ils voient d'autres priorités, mais souvent, leurs priorités, ils les trouvent en période électorale. Et quand on parle de projets créés par les organisations sociales, d'initiatives qui ne sont pas politiques, mais qui viennent des associations, du collectif, des paysans, il n'y a pas vraiment de volonté de la part de l'administration de les soutenir. Et ça nous manque. On aimerait qu'ils fassent un peu plus attention au travail des associations et qu'ils puissent apporter eux aussi à ces initiatives.
La zone de réserve paysanne de Cabrera continue donc à lutter pour défendre ses droits et défendre ses projets. Et pour terminer, Paola m'emmène là où nous avons commencé, à l'endroit où nous avons rencontré Raphaël sur la place principale du village. Car cette place est désormais très symbolique dans l'histoire de la stigmatisation de Cabrera.
Le gouvernement et l'armée nationale colombienne ont demandé pardon. Ici, sur cette place où on se trouve, pour la mort de personnes innocentes, tuées simplement à cause de cette stigmatisation de la zone de réserve paysanne. Et du fait qu'on se trouve dans un territoire où, historiquement, des paysans et des paysannes ont dû prendre les armes pour défendre leur vie face aux agressions de l'État à cette époque. Et aujourd'hui, la stigmatisation continue. Parfois, quand on va dans une autre région de Colombie et qu'on dit qu'on vient de Cabrera, tout le monde nous regarde. Et on nous voit comme faisant partie d'un groupe armé. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais changé. Et le fait d'être un leader paysan, de vouloir protéger les ressources naturelles, de défendre les droits des paysans, ça fait de toi une cible, une personne à éliminer. Ce n'est vraiment pas facile tous les jours.
Quel est l'espoir aujourd'hui de la zone de réserve paysanne de Cabrera? Qu'est-ce que vous espérez?
Je voudrais qu'on nous respecte. Qu'on respecte nos décisions, notre territoire, notre identité paysanne. Et puis qu'ils viennent nous rencontrer. Ceux qui disaient de nous qu'on était des paysans armés, je voudrais qu'ils voient qu'on est seulement armés de nos bulletins de vote, de nos sombreros. Et puis, je voudrais que la paix continue, pas seulement à Cabrera, mais dans toute la Colombie. Et que notre jeunesse n'ait plus jamais à prendre une arme, que ce soit pour un groupe armé légal ou illégal. Qu'ils puissent travailler aussi à nourrir notre pays et tous les autres pays où arrivent les produits qu'on cultive.
On est reparti de Cabrera et on est désormais à Bogota, dans le centre de Bogota, au café des zones de réserve paysanne, où on peut acheter différents produits qui viennent des 6 zones de réserve paysanne qui sont aujourd'hui légalement reconnues en Colombie. Et on est ici à Bogota avec Stéphane Ortiz, qui est en participant à une étude de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, a visité chacune des 6 zones de réserve paysanne de Colombie. Stéphane, c'est quoi les défis de ces zones aujourd'hui en Colombie pour les années qui arrivent?
Je pense que comme avant, aujourd'hui, la stigmatisation persiste. Les zones de réserve paysanne sont toujours associées par des secteurs politiques à des tendances dites communistes ou même indépendantistes. ce qui n'est pas du tout vrai. En fait, les underserved paysans veulent appeler l'État à occuper sa place dans les territoires où historiquement il a été absent. Donc c'est vraiment tout le contraire, c'est construire l'État dans ces régions ignorées et le construire avec les gens et les initiatives et les propositions qu'ils ont développées depuis des générations. Un autre défi, c'est la persistance des groupes armés. Il n'y avait pas que les FARC présents dans ces territoires, il y a beaucoup d'autres groupes et même des combattants des FARC après la démobilisation qui sont restés dans ces zones armées. Ils font présence, ils mettent la pression sur les organisations sociales. Il y a d'autres groupes qui sont liés au narcotrafic, se financent à partir de la feuille de coca, qui aussi ne laissent pas que les paysans substituent la feuille de coca pour d'autres produits. C'est des défis qui sont très réels et toujours présents.
Les paysans voulaient justement pouvoir administrer librement leur territoire. Et aujourd'hui, en fait, il y a des zones de réserve paysanne où, si je comprends bien, il y a des problèmes de culture illégale de la coca. Il y avait aussi, jusque récemment, le problème de l'emprise des FARC. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché dans les zones de réserve paysanne ?
Oui, mais il faut aussi dire que ces problèmes que tu dis sont réels, mais ce n'est pas exclusif des zones de réserve paysanne. En fait, on voit même que les zones de réserve paysanne ont été capables, dans certains cas, d'arrêter ou de créer des accords avec les groupes armés et faire aussi des normes communautaires pour la conservation, pour la résolution de conflits sociaux et territoriaux.
Donc en fait, la plus grande question pour les zones de réserve paysanne aujourd'hui, c'est une question de respect des projets et des décisions que ces zones cherchent à mener.
De respect et de dialogue et d'articulation entre l'État et les organisations paysannes. Une grande partie du conflit, la grande partie est rurale. S'il n'y a pas une paix avec l'environnement, et cette paix elle est seulement possible à partir de la stabilisation de l'économie paysanne. Donc s'il n'y a pas une paix avec l'environnement, il n'y aura pas de paix sociale complète, ni de justice sociale. Pour arriver à ça, on a besoin de politiques publiques, de présence de l'État, mais aussi d'une reconnaissance des gens et de leurs efforts et de tout ce que les communautés ont construit dans leur territoire. Malgré toutes les pressions et malgré le conflit, elles ont réussi à établir des versions à eux du développement. Il faut reconnaître ça.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. A nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia.
Les réserves paysannes, un laboratoire pour la paix en Colombie, c'était un reportage d'Amélie Perrault réalisé par François Porcheron.
Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est l'apocalypse en édition populaire. Le siècle pourrait bien être le dernier de la série. Nous retrouvons maintenant la chronique mensuelle collapsologique. Oui, collapsologique, collapsus en latin, c'est l'effondrement. L'effondrement de quoi ? Eh bien de notre civilisation, de notre société, même de tout ce qui nous entoure carrément. Malheureusement, ce n'est plus un domaine réservé à la science-fiction. Il faut prendre cette possibilité désormais très au sérieux. Et c'est ce que vous proposez, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, puisque vous êtes des collapsologues.
Oui, bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Anne-Cécile, me voici à nouveau pour parler de très mauvaises nouvelles, avec sérieux mais toujours dans la bonne humeur. Alors vous vous demandez peut-être ce que vient faire une chronique de la fin du monde sur RFI. Eh bien, laissez-nous vous expliquer parce que la fin du monde c'est légèrement exagéré, certes. Nous ne parlons pas de la fin de tout en un instant, comme ce serait le cas avec par exemple une météorite géante. Nous parlons plutôt d'un enchaînement de catastrophes globales, certaines lentes, d'autres rapides, qui pourront déstabiliser le monde tel que nous le connaissons. Et en quelques années ou en quelques décennies, c'est beaucoup plus lent qu'une météorite géante. Voilà, donc c'est la fin possible d'un monde.
Alors d'un monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le monde des pays industrialisés, l'humanité tout entière, qu'est-ce qui peut s'effondrer ?
Ben là aussi beaucoup de choses en fait, c'est ça la difficulté, c'est parce que le premier point, c'est qu'il faut se rendre compte que des effondrements ont déjà commencé. Il y a déjà des ruptures majeures dans les écosystèmes, il y a déjà des effondrements de populations d'insectes ou d'oiseaux, on l'a vu récemment dans les médias, des batraciens, des coraux, des poissons, etc. Mais il y a aussi des personnes, des humains touchés par la perte des milliers d'hectares de terres arables, la déforestation, la fonte des glaciers, les événements climatiques extrêmes comme des gigantesques inondations, des sécheresses, voilà, les sécheresses qui durent de plus en plus longtemps, des ouragans de plus en plus puissants. Voilà, donc il y a déjà d'immenses pollutions irréversibles, des ruptures géopolitiques, des migrations de masse et même des effondrements de classes sociales. Vous savez que dans les pays riches, il y a de plus en plus de pauvres et des effondrements même personnels. Beaucoup de gens perdent confiance dans la société, il y a une colère qui gronde, il y a un désespoir qui grandit. Et donc la clé, c'est de comprendre que tous ces petits effondrements, toutes ces catastrophes sont en fait liées.
Alors il y a tous les effondrements actuels que vous venez d'évoquer et il y a tous ceux à venir.
Exact, voilà. Et là, on fait aussi un peu de futurologie. Et c'est assez casse-gueule, il faut l'avouer. Mais nous avons découvert, en faisant le tour d'horizon de pas mal de publications scientifiques, que nous étions face à une menace grandissante d'un effondrement généralisé du monde industrialisé. Et là, c'est beaucoup plus massif. C'est-à-dire que ça peut toucher l'ensemble des pays riches et des pays émergents. Ça, c'est le problème énergétique et financier. Mais il y a aussi la menace d'une extinction carrément de l'espèce humaine, voire de la majorité des espèces vivantes sur Terre.
Alors ça me fait penser au film de science-fiction des années 80. Finalement, c'est cela qui va devenir réel. On est un peu dans un scénario hollywoodien, là, non ?
On pourrait l'être, mais à vrai dire, c'est beaucoup plus sérieux que ça. En fait, on n'est pas du tout dans un billet d'humeur ou une chronique humoristique ou un film hollywoodien. On n'est pas non plus dans une chronique décliniste, vous savez, comme un philosophe qui parlerait du mythe de l'apocalypse ou comme on en voit tant un éditorialiste qui se plaindrait des grèves ou même un idéologue nostalgique d'un passé glorieux. Non, non, c'est rien de tout cela. Ce qu'on a fait avec Raphaël Stevens et maintenant Gauthier Chapelle, c'est de décortiquer les publications scientifiques les plus récentes, les plus sérieuses. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de scientifiques ou d'experts qui parlent aujourd'hui de collapse. Et ce n'est pas difficile de trouver des rapports d'experts de toutes sortes, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de l'ONU, des rapports militaires, des publications en climatologie, en écologie, en paléontologie, en océanographie, etc., etc. Les chiffres ne manquent pas. Donc la première étape, c'est de prendre tout cela à bras-le-corps, de comprendre les liens entre tous ces domaines. Et en fait, on se rend compte que pris ensemble, ça donne du sens à notre époque, qui en manque cruellement.
La collapsologie, finalement, c'est donc une science.
Alors c'est une proposition de science, plus exactement. C'est pas encore une discipline officielle, parce que bon, on a lancé l'idée comme une bouteille à la mer. Mais c'est plutôt aux chercheurs, aux universités de s'emparer du sujet et de le déployer. Et quand il y aura des instituts de collapsologie très officiels, des masters, des doctorats, ou même pourquoi pas un Journal of Collapsology, là on pourra parler d'une vraie discipline scientifique. Mais en attendant, c'est surtout une proposition pour prendre au sérieux toutes ces catastrophes et la possibilité d'un effondrement. Et en fait, c'est une manière de mettre des mots, M-O-T-S, S, sur des mots M-A-U-X, sur nos mots, sur une intuition en fait que beaucoup de gens partagent aujourd'hui, le grand public. Et en fait, c'est surtout une amorce, parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de la science, des scientifiques, mais on a aussi besoin des autres, de tous les autres. C'est une question qui dépasse en fait le cadre strictement de la raison.
Mais alors de quoi a-t-on besoin si la raison ne peut pas tout ?
Eh bien, il nous faut aussi des outils psychologiques pour comprendre et accueillir toutes les émotions que ces catastrophes génèrent. On ne peut plus se contenter de rester froid et rationnel face à tout cela. Et nous sommes des êtres émotionnels, il faut accueillir ces émotions, et c'est vrai que le monde scientifique et politique n'en ont pas vraiment l'habitude. Et puis il y a un autre facteur important, c'est qu'il faut aussi des nouveaux outils imaginaires, il faut convoquer d'autres mythes, d'autres manières de créer des récits qui nous permettront de traverser les tempêtes sans être obsédés par exemple par la croissance, par l'idée qu'on va tous s'entretuer ou par l'idée absurde qu'il faut envoyer des voitures sur Mars.
Vous êtes conscient quand même que globalement c'est déprimant ?
Je suis conscient. En fait, je crois même que ce qui est déprimant, c'est de ne pas en parler. En fait, c'est de mettre tout ça sous le tapis et d'observer les oiseaux disparaître en faisant semblant de rien. Ça, pour moi, c'est terrible. Et en fait, si on y réfléchit, penser à toutes ces catastrophes, ça rend fou. Mais ne pas y penser, ça rend fou aussi.
Eh ben, on peut peut-être aspirer à un sursaut de maturité, c'est en tout cas ce que vous essayez de faire avec votre travail, et c'est ce que l'on essaye de faire, nous aussi, dans cette émission. Merci Pablo Servigne.
Merci.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Non, ils se disent, le Bangladesh, c'est pas cher, c'est pour ça qu'on est là. Si le Bangladesh devient plus cher, on ira au Vietnam ou en Birmanie. L'éthique, on s'en fout, les droits de l'homme, tout ça, c'est des conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du fric. Voilà ce qu'ils pensent.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Selon les projections des Nations Unies, la population africaine au sud du Sahara atteindra 2,2 milliards d'habitants d'ici 2050. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui et la moitié de ces habitants auront moins de 25 ans. Cette explosion démographique a lieu dans le contexte des changements climatiques qui impactent fortement la vie dans les zones rurales où vivent la majorité des Africains. Le CIRAD, le Centre international de recherche pour le développement, et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, et l'alimentation, viennent de publier un atlas sur les migrations rurales en Afrique subsaharienne, un outil formidable pour anticiper la manière dont les dynamiques de population vont évoluer dans les années à venir. Bonjour Robin Bourgeois.
Bonjour.
Vous êtes l'un des 20 auteurs de cet atlas, dans lequel nous apprenons tout d'abord que l'essentiel des migrations africaines se fait à l'intérieur même du continent.
Oui, en effet, l'Afrique subsaharienne notamment se déplace, mais elle quitte très peu le continent. Pour la plupart des pays d'Afrique saharienne, la forme dominante de migration est la migration interne. D'ailleurs, le volume de ces migrations internes est estimé à 6 fois le volume des migrations vers l'étranger, et ceci sur la base de données qui sont encore assez fragmentaires. On pourrait penser que c'est encore plus important.
Voilà, donc cela tord bien le cou aux idées reçues. Et autre conception parfois erronée, dans l'Atlas vous mettez des pendules à l'heure, ces migrations ne se font pas uniquement des campagnes vers les villes.
En fait, il y a différentes formes de migration qui se développent en Afrique subsaharienne. Alors effectivement, traditionnellement, c'est la migration de zone rurale à zone urbaine est celle qui est la plus communément discutée. Mais en fait, on observe des migrations de zone rurale à zone rurale, mais aussi des migrations circulaires qui se caractérisent par des allers-retours entre différents lieux d'activité et de résidence qui ne sont pas nécessairement entre le milieu rural et le milieu urbain. Et toutes ces migrations, en fait, contribuent au renforcement du tissu territorial par les réseaux économiques et les solidarités qu'elles contribuent à développer. Il existe aussi des migrations de type urbain-rural, comme par exemple en Zambie dans les années 90. En fait, ce qui importe là, c'est le différentiel qui existe entre les lieux de départ et les lieux d'arrivée des migrants. Et c'est ce différentiel-là qui explique pourquoi on observe toutes ces formes de migration de rural à urbain, de rural à rural, mais aussi de urbain à rural et les formes de migration circulaire.
Alors, est-ce que les conséquences des changements climatiques vont jouer un rôle important, évidemment, sur ces stratégies de migration des populations dans les années à venir ?
Alors c'est clair qu'aujourd'hui le changement climatique est mis extrêmement en avance comme l'une des motivations les plus importantes au regard des migrations, mais il faut vraiment relativiser ça, parce que ce que l'on observe, c'est que ce n'est pas vraiment la raison principale. D'ailleurs, il n'y a pas généralement de raison principale, mais toute une série de raisons, souvent d'ordre économique, social ou politique, qui sont connectées et en relation avec ces autres raisons, le changement climatique, plus exactement les impacts du changement climatique, peuvent avoir une connexion avec la migration. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable au changement climatique, car sa population rurale, en particulier, dépend majoritairement de l'agriculture pluviale, hein, qui couvre encore pratiquement 95% des terres agricoles, et aussi avec des capacités économiques et institutionnelles limitées. Pour rajouter quelque chose, c'est qu'il y a une large proportion des ruraux en Afrique subsaharienne qui sont économiquement et socialement défavorisés et donc très très dépendants envers les ressources naturelles, ce qui renforce leur vulnérabilité aux aléas climatiques.
Alors du coup, quels sont les scénarios que l'on peut envisager ?
Alors, au niveau global, le réchauffement climatique pourrait produire sur l'Afrique des phénomènes de migration importants qui se dirigeraient pour fuir la chaleur et les phénomènes extrêmes vers les côtes, vers les zones les plus élevées qui seraient plus fraîches ou vers le sud du continent. Mais en fait, on ne peut pas prédire les flux migratoires. Ce qui est clair, c'est que les migrants ruraux d'Afrique subsaharienne ne sont pas les plus avantagés pour les migrations internationales, extracontinentales. En fait, les migrations intracontinentales vont dominer et elles se feront vers des zones d'attractivité à construire et probablement à construire hors des grandes métropoles pour permettre un rééquilibrage du territoire.
Merci Robin Bourgeois pour toutes ces explications. Pour en savoir plus sur cet atlas des migrations rurales, j'invite les auditeurs à aller sur le site du CIRAD, www.cirad.fr. Et pour mieux anticiper ces évolutions, le CIRAD et ses partenaires ont élaboré une approche opérationnelle de prospective territoriale. C'est un peu technique comme terme, mais vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Jean-Michel Sourisseau.
Bonjour.
Vous êtes socio-économiste au CIRAD. Alors en écoutant Robin Bourgeois, il semble évident qu'il va falloir massivement investir dans les zones rurales et notamment dans l'agriculture, hein, pour donner du travail à toute cette jeunesse de plus en plus nombreuse.
Ben oui, ça semble évident. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'urbanisation et effectivement, il y a des chiffres qui montrent que l'Afrique s'urbanise rapidement, mais en même temps, ça veut dire aussi que ça veut pas dire que le rural se vide. Au contraire, quoi, la population rurale continue à augmenter assez fortement et ça reste une population jeune. Et avec en plus donc les mobilités dont parlait Robin Bourgeois nous ramène aussi à une densification du monde rural qui impose de s'intéresser un peu à ces terres ruraux. Quand on a toujours des politiques nationales en fait qui sont assez pilotées depuis les capitales, surtout en Afrique subsaharienne, hein, où on a quand même des structures urbaines avec un poids très 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 fort de la capitale, et donc une difficulté à décentraliser et à imaginer des politiques territoriales locales. Donc on est toujours dans des politiques assez nationales, assez sectorielles, assez fragmentaires, qui prennent assez mal en compte finalement les dynamiques locales et les perspectives qu'offrent ces territoires locaux et ces territoires ruraux en particulier pour le développement.
Alors que l'agriculture, et d'ailleurs c'est l'Afrique est le seul continent finalement sur cette planète dans cette situation, l'agriculture peut être un fort secteur pourvoyeur d'emplois dans les années à venir.
Elle peut être un secteur pourvoyeur d'emploi, mais elle est surtout déjà, et pour les années à venir, pour les décennies à venir, elle va rester de toute façon forte actuellement dans les zones où on a regardé un petit peu plus en détail. Une zone comme Ségou, par exemple, une région comme Ségou au Mali, a plus de 80% de sa population qui reste dans le secteur primaire, et en particulier dans l'agriculture. Et en plus, cette population-là est surtout dans un secteur, évolue dans un secteur informel, avec toutes les difficultés que cela engrange, mais aussi les avantages que ça peut avoir. Bon, du coup, oui, effectivement, il y a un raisonnement sur l'agriculture, et un raisonnement sur l'agriculture en connexion avec les autres secteurs émergents dont on espère quand même qu'ils vont émerger, puisque il est évident quand même qu'un développement se fera via une diversification un peu plus évidente des tissus économiques et en particulier dans les zones rurales.
Alors pour anticiper ces évolutions, vous avez imaginé, je le disais, une approche qui permet d'envisager des scénarios à l'échelle de 20 ans, une approche que vous avez déjà testée au Mali et à Madagascar.
Oui, exactement. On a testé ça en partenariat avec l'Agence française de développement dans la région de Ségou, au centre Mali, et dans la région du Vakinankara sur les hauts plateaux. C'est la région d'Antsirabe à Madagascar. Et l'idée, c'est effectivement c'est une méthode parmi d'autres, hein, c'est un instrument d'analyse et de prospective qui permet justement d'essayer de penser la relocalisation des politiques publiques dans des territoires qui manquent effectivement de stratégie locale de développement autonome. autonome. Alors pour l'heure, c'est beaucoup une approche méthodologique, hein, avec de redécouvrir un peu les approches de développement local et de les renouveler à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui, avec les nouvelles statistiques dont on dispose et les nouveaux concepts de développement donc qu'on peut manipuler. Mais c'est aussi, et c'est là où ça semble intéressant, de dire que d'utiliser l'anticipation, en fait, de se projeter à quelques décennies avant pour mieux penser ce qui se passe aujourd'hui dans le développement. Donc c'est ça le principe un peu, avoir une analyse des dynamiques territoriales plus fine que c'est le cas actuellement, et imaginer le futur pour ensuite, par effet rétro, imaginer des politiques publiques qui pourraient être plus ancrées et stratégiquement plus efficaces.
Et alors qu'est-ce que ça donne par exemple au Mali ?
Au Mali, sur la région de Ségou, le diagnostic montre effectivement une forte prégnance de l'agriculture et du secteur primaire, une difficulté, on va dire, structurelle à diversifier l'économie locale, et des alertes assez fortes, quoi, notamment sur la pression démographique. Hein. On fait peu ça en général, les anticipations démographiques, on les fait peu à des échelles territoriales. Quand on a fait les enquêtes en 2015, il y avait à peu près 40 000 personnes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Il y en aura 64 000 en 2034. Donc ça permet de mettre des alertes comme ça sur les besoins du territoire et des besoins agricoles et de diversification. Si on estime à productivité égale les terres qui seront nécessaires pour que la population de Ségou continue à assurer la même autosuffisance alimentaire et les mêmes performances agricoles, il faudra trouver 1 million d'hectares supplémentaires d'ici 2035, par exemple, sur Ségou. Donc ce genre d'alerte-là permet d'interroger et de redire qu'effectivement, il faudra que l'agriculture continue à employer moins de monde, mais sur des surfaces sûrement plus faibles, donc invite à relocaliser un peu les zones où il faudra des gains de productivité assez forts. Les alertes portent aussi sur le besoin de diversification et sur le fait que dans les dernières années, dès qu'il y a des industries un peu émergentes dans la zone de Ségou, elles se redélocalisent très vite vers Bamako pour des raisons d'infrastructures de communication à tous les niveaux. Et donc du coup, ce genre de projection et d'alerte invite à renforcer très fortement les infrastructures pour permettre de les penser de façon à permettre la relocalisation dans les régions des stratégies agroalimentaires en particulier, qui sont très prometteuses, mais qui peinent pour l'instant à se mettre en place correctement.
Et à Madagascar ?
À Madagascar, on est un petit peu dans la même logique, mais avec par exemple, sur la région du Vakinankaratch, avec des zones très très dense, avec des surfaces agricoles qui diminuent très fortement. On est passé donc d'un hectare par exploitation à moins d'un demi-hectare par exploitation aujourd'hui en moyenne, ce qui met l'accent sur la difficulté de cet accès au foncier. Et donc du coup, on a dans une même région des zones extrêmement dense avec des difficultés très fortes d'accumulation, une quasi incapacité d'accumuler avec des surfaces aussi faibles, auxquelles répondent plus à l'ouest du pays des zones vierges, beaucoup moins denses en terre. Et là, encore une fois, avec des explications de cette densification d'un côté et de cette absence de déplacement des populations de l'autre, par des problèmes de politique agricole qui restent ciblés sur les zones déjà existantes et qui peinent à rééquilibrer le territoire. Donc là, il y a tout un tas de stratégies qui peuvent se mettre en place, de rééquilibrage du territoire, là encore, en assurant des questions de sécurité, des biens et des personnes, des infrastructures scolaires et de santé qui permettrait de rééquilibrer le territoire.
Merci beaucoup Jean-Michel Sourisseau. On entend bien un travail donc de diagnostic et de prospective qui peut être bien utile aux décideurs politiques et à tous les acteurs du développement pour faire les bons choix.
Merci.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.